Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous, où que vous soyez au Québec. Une bienvenue particulière à tous les gens de Nouvelle Vie, bien sûr, où que vous soyez, mais aussi à la province de Québec, partout en francophonie. Nous avons reçu tellement de courriels cette semaine. Il y a des dizaines de milliers qui vont entendre et voir ce message. Et quelle joie nous avons de pouvoir vivre ces moments avec vous. Notre Dieu est sans limite. Nous ne pouvons pas limiter Dieu. Il peut agir partout et dans n'importe quel moment. Et dans ces moments où humainement, bien sûr, il peut y avoir anxiété, où nous pourrions être désorientés, nous pourrions être déstabilisés, de ne pas pouvoir nous rencontrer en personne comme nous le faisons depuis tant d'années. Quelle joie d'avoir cette bonne nouvelle que nous pouvons vivre Nouvelle Vie chez vous, qu'on peut vivre ces moments ensemble. Moi, je suis reconnaissant au Seigneur que il y a quelques années déjà, le Seigneur nous a conduits à monter cette équipe, à monter toute cette possibilité technologique, toute l'équipe média, afin de pouvoir vous rejoindre là où vous êtes, afin de pouvoir vivre Nouvelle Vie chez vous. Et oui, nous faisons face à une pandémie qui sème la douleur, qui sème la crainte, qui sème l'anxiété, mais nous croyons qu'à travers Nouvelle Vie chez vous, nous voulons semer une pandémie de paix. Une pandémie, nous voulons répandre un espoir, une pandémie de joie, de paix, de force, une pandémie de l'action de la grâce et de l'amour de Dieu. Nous voulons être l'Église en action pour aller vous rejoindre et nous allons continuer parce que nous étions dans une série ici à Longueuil et en ligne, bien sûr. Nous étions dans une série de messages sur l'Épître de Jacques qu'on appelait l'Épître de l'ADN où nous découvrons, redécouvrons, nous emparons de l'ADN du chrétien. Et nous arrivons dans Jacques. Et le titre, le thème du message aujourd'hui, c'est l'ADN de la sagesse face à l'inconnu, face à l'inconnu qui nous fait peur, face au coronavirus, face à cette pandémie qui est là. Et c'est assez saisissant à quel point la Bible qui a été inspirée et écrite il y a 2000 ans vient rejoindre nos réalités là où nous sommes. Parce que lorsque nous étudions cette lettre de Jacques à des chrétiens il y a 2000 ans, c'était des chrétiens qui étaient qui étaient dispersés, persécutés, mais surtout dispersés. L'Épître commence avec ces mots, les chrétiens dans la dispersion, dans la diaspora. Ils étaient littéralement, avaient subi des attaques qui littéralement les empêchaient de se réunir. Ils empêchaient de se rassembler. Ils étaient éparpillés, ils étaient isolés et ils n'avaient pas d'Internet. Ils n'avaient pas de Nouvelle Vie chez vous. Ils se sentant isolés, un peu dispersés. Et Jacques écrit cette lettre pour essayer de les réconforter. Et c'est fascinant qu'il y a même des auteurs, des historiens de cette époque-là qui, lorsqu'ils regardent à cette période de temps, écrivent que la persécution était tellement sévère. Lorsque les chrétiens ont été dispersés, il y avait des penseurs de l'époque qui disait, est-ce que le christianisme, Jésus qui est venu, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité, est-ce que le christianisme va même survivre? Est-ce que le christianisme va survivre à l'époque, à cette pandémie de persécution et d'attaque et de menaces et de dispersion? Eh bien, non seulement le christianisme a-t-il survécu, mais nous voici 2000 ans plus tard avec ces pratiquement 2 milliards de chrétiens sur la terre. Et je veux dire à qui que ce soit qui en aurait quelques doutes que ce soit, l'Église chrétienne a survécu à tout. L'Église chrétienne a traversé toutes les guerres, toutes les plaies, elle a traversé toutes les souffrances, toutes les douleurs, traversé tous les désastres et tragédies, les pires de l'histoire. Et l'Église en a sorti, elle va sortir de celle-ci également. Et c'est tellement pertinent parce que non seulement est-ce qu'ils étaient dispersés, mais l'apôtre Jacques les adresse et leur parle de leurs diverses épreuves. Chapitre 1 et le verset 2, vous avez diverses épreuves, diverses attaques. On a étudié ensemble depuis le début de cette série la nature de ces mots. Lorsqu'on parle de diverses attaques et de diverses épreuves, on ne parlait pas seulement d'attaques qui étaient humaines. Et on parle littéralement le mot périphtiso qui parle de quelque chose qui attaque subitement dans les diverses épreuves. Pérasmos, on parle d'épreuves, on parle de quelque chose qui venait les saisir littéralement. Lorsqu'on parle en ce moment dans notre actualité, d'un virus à la base, c'est littéralement un poison. Il y a un poison qui menace, mais il y a aussi la panique qui devient un poison, la peur qui devient un poison, l'incertitude en ce moment, l'inconnu, l'incertitude est un poison, une certaine menace pour l'avenir. Il y a des virus, il y a des poisons qui sont non seulement physiques, mais qui sont dans nos âmes. Et c'est pour ça que dans le même épître, l'apôtre, non seulement Jacques dit à des gens dispersés, à des gens qui vivent des épreuves inattendues qu'ils n'avaient pas vu venir, mais il y a-t-il quelqu'un parmi vous, chapitre 5, versets 13 et 14, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la souffrance ou qui est malade? Et les deux mots utilisés sont des mots différents. Un qui parle d'une, littéralement, une souffrance qui est au-delà de la maladie physique. Pas seulement physique, mais une souffrance qui peut être émotionnelle, qui peut être relationnelle. Une souffrance qui peut être mentale, humaine, psychologique. Une souffrance non seulement extérieure, mais une souffrance intérieure. Et l'autre mot pour malade est un mot qui est utilisé pour parler d'extrême faiblesse. Asthénéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est affaibli? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est attaqué et qui est affaibli, qui a été frappé, qui a tombé? C'est le même mot qui est utilisé lorsqu'on nous dit dans la Bible, dans la célèbre parabole du bon samaritain, un homme traversait de Jérusalem à Jéricho, il est tombé, il était affaibli, il était en danger. Et bien sûr que des milliers qui, en ce moment, entendent et regardent ce message, vous êtes sous cette attaque, vous êtes sous ce moment d'affaiblissement, ce moment d'angoisse et de peine. J'étais pas surpris, mais saisi du nombre de courriels déjà que nous recevons, que je reçois, de chrétiens partout à travers la francophonie avec toutes sortes de questions, toutes sortes d'interrogations, toutes sortes de paniques, même doctrinales ou spirituelles. J'ai reçu un courrier de Paris, un courriel de Paris cette semaine qui était très représentatif. Cher pasteur Claude, et la question était littéralement, comment est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous pouvez donner un peu de sens à tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire du sens d'une telle pandémie? Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Quel est le comportement? Quel comportement, quelle sagesse un chrétien devrait-il avoir face à cette pandémie? Et lui dit, je vous cite certains extraits de son courriel, il dit « certaines églises ferment, d'autres non. Certains pasteurs disent qu'il faut collaborer avec les instances médicales, gouvernementales, et d'autres disent « non, si tu as la foi, rien ne va t'atteindre ». Et d'autres disent, non, c'est à cause, si tu n'as pas de péché, tu ne seras pas atteint. Et certains d'autres disent, c'est le jugement de Dieu sur les nations rebelles des temps de la fin. Il me dit, est-ce que vous pourriez nous donner une parole claire? Est-ce que vous pourriez nous donner une parole, quelle doit être ma sagesse? Quel doit être mon comportement? Eh bien, Jacques, c'est fascinant parce qu'il y a 2000 ans, les chrétiens, au milieu de leur pandémie, se posaient les mêmes questions. Et dans ce message aujourd'hui, mais dans le prochain message, la semaine dernière, en deux parties, nous allons regarder ensemble. Jacques, en réponse, va dire à chaque croyant, tu dois rechercher cette sagesse qui est spirituelle, qui n'est pas en contraste ou en opposition avec la science ou la connaissance ou une certaine maturité, bon sens ou sagesse humaine, mais qui la transcende la dimension humaine de la sagesse parce qu'elle vient de Dieu. Parle dans Jacques, chapitre 3, d'une sagesse qui vient de Dieu, une sagesse que nous devons rechercher. Et c'est la première pensée aujourd'hui, c'est la recherche de la sagesse. Jacques dit, vous êtes frappés par l'épreuve, recherchez la sagesse. Et le premier texte que nous allons regarder ensemble est Jacques chapitre 1 et les versets 5 à 8, où Jacques dira, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et de l'autre, qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Lorsque vous regardez au mot « sagesse » dans la Bible, dans l'Ancien Testament, « okna » en hébreu, dans le grec du Nouveau Testament, « sophia », et l'épître de Jacques est souvent appelé l'épître de la sagesse, un des écrits de la sagesse biblique. Presque des proverbes du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, et fait partie intégrale des écrits de la sagesse, dont l'objectif et la mission sont décrites dans Proverbe 1. Je vous donne un devoir à vous tous, où que vous soyez au Québec et en francophonie, lisez le Proverbe 1 cette semaine, où on décrit l'objectif et la mission de la sagesse biblique, connaître la sagesse, l'instruction, comprendre les paroles. Et apprentissage, la sagesse, c'est les, bibliquement, c'est les paroles, c'est l'apprentissage de l'intelligence spirituelle, intellectuelle, morale, relationnelle, émotionnelle. Recevoir et mettre en pratique les enseignements de la justice, de la droiture que Dieu veut donner à tous un discernement du bien, du mal et du meilleur. Qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal? Mais qu'est-ce qui est le meilleur pour l'abondance, du bien, du mal et du meilleur pour l'abondance de vie? De la réflexion qui conduit à des attitudes et des actions. Que le sage, proverbe 1, que le sage écoute et apprenne, mette en pratique, il augmentera alors sa compréhension, son savoir, sa sagesse, ses aptitudes de vie, ses capacités d'être, ses ressources pour être la personne que Dieu désire qu'il soit, pour que nous soyons ensemble le peuple que Dieu désire que nous soyons et que nous puissions nous emparer de l'abondance de vie, quelle que soit l'épreuve que nous traversons. Et lorsque Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Et en ce début d'année 2020, nous avons tous besoin d'une sagesse divine. Besoin d'une sagesse divine, besoin d'être porté par Dieu, d'être dirigé par Dieu. Et à tous qui vont le demander, il va donner librement, sans reproche, elle lui sera donnée. La sagesse que Dieu désire donner, elle est fondée sur notre connaissance de Dieu. Elle est fondée sur notre communion avec Dieu. Et elle est fondée sur également notre confiance en Dieu. Que celui qui la demande avec foi, sans douter. Parce que s'il n'est pas demandé avec foi, s'il n'y a pas cette communion, cette confiance, cette demande, cet abandon à la sagesse que Dieu donne, il donne une description qui est assez vivide de notre monde actuel. Vous serez alors comme lancé, balancé, comme les flots de la mer. Vous serez semblable aux flots de la mer agités par le vent, poussés d'un côté et de l'autre. Et moi, depuis 36 ans de pastorat, dans maintenant plus d'une cinquantaine de pays, j'ai été, et auprès de milliers et de milliers de croyants, j'ai été émerveillé, sans cesse émerveillé, toujours stupéfait, émerveillé, tellement impressionné de voir la mesure de sagesse, la mesure de force que Dieu donne à des... Nous avons été plusieurs qui sont ici dans l'équipe pastorale, pasteur Marc et plusieurs autres avec moi, avons été dans des pays post-génocidaires, des pays qui ont connu des guerres, des tremblements de terre où des centaines de milliers ont perdu la vie, et de voir partout dans le monde, comme localement ici même, face aux tremblements de terre et aux épreuves et aux poisons et aux virus et aux pandémies qui nous frappent sur une base personnelle à chaque jour dans différentes sphères de nos vies, de voir comment cette poursuite de la sagesse, le croyant qui recherche la sagesse de Dieu depuis 36 ans, j'ai vu cette sagesse-là, cette connaissance, cette communion avec Dieu, cette compréhension de Dieu, cette confiance en Dieu, donner des forces extraordinaires. Et hors de la capacité humaine, okay? Des forces pour porter des fardeaux, pour être renouvelé à travers des fardeaux qui devraient dû amener une fatigue qui amène l'être humain à ses limites. Mais j'ai vu des êtres humains et je l'ai expérimenté dans ma propre vie, des forces surnaturelles. J'ai vu la sagesse de Dieu donner un feu, donner une ferveur. Voir des gens à travers des circonstances les plus difficiles être remplis de cette sagesse de Dieu, de cette communion avec Dieu, de cette connaissance de Dieu, de cette confiance en Dieu, la sagesse, la direction de Dieu, et d'avoir une flamme qui ne s'éteint pas, d'avoir un courage. Et ce n'est pas une flamme et un feu qui n'est pas fataliste. Le croyant dans l'épreuve n'est pas fataliste, n'est pas à l'abandon, n'est pas dans le Inch'Allah. Il est dans la confiance, il est dans sa communion, il est dans la connaissance de la nature, de l'essence de son Dieu, de sa fidélité, sa bonté. J'ai vu la sagesse de Dieu donnée à des gens comme vous et moi, ordinaires comme nous, limités comme chacun d'entre nous. J'ai vu cette sagesse-là de Dieu donner une faveur, des facultés insoupçonnées, une faveur insoupçonnée, même lorsque tout semblait fermé, de voir le peuple de Dieu émerger au milieu des pires situations avec une faveur, avec une faveur de Dieu. Et je dois dire aussi, oui, faveur, force et feu et flamme, mais j'ai aussi vu la folie et la futilité du croyant dans l'épreuve lorsqu'il ne cherche pas la volonté de Dieu, lorsqu'il ne cherche pas la sagesse de Dieu. C'est pour ça que Jacques dira au chapitre 3 et au verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il le montre par une bonne conduite, parole, action, attitude et avec la maîtrise de soi et de la sagesse. Il y a beaucoup de choses dans ce court verset. La première chose, c'est que ce n'est pas tous ceux qui se disent ou se pensent sages qu'ils le sont. La sagesse n'est pas démontrée dans le discours. La sagesse est démontrée par sa conduite, par comment tu te comportes, par tes attitudes, par ta maîtrise, par tes paroles, par tes actions, par tes attitudes. Il y a aussi toute cette dynamique de... Alors que je vais rechercher, la raison pour laquelle il pose la question, c'est lorsqu'il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » C'est qui la raison pour laquelle Jacques a dit « Lequel d'entre vous est-il sage et intelligent? » C'est parce qu'il y en avait qui l'étaient, puis il y en avait qui ne l'étaient pas. C'est parce qu'il y avait des croyants qui ne recherchaient pas cette sagesse de Dieu, qui n'étaient pas dans la sagesse. En ce printemps 2020, nous allons rechercher et démontrer la sagesse et l'intelligence, la compréhension. Ce n'est pas une intelligence intellect ici, c'est le mot compréhension. Une sagesse de comportement, d'attitude, une sagesse qui rassure. J'aimerais dire que dans la même mesure, où quelqu'un qui est rempli de la sagesse de Dieu va briller, va inspirer, va être attirant, quelqu'un qui est chrétien, un homme ou une femme qui est chrétien, qui n'est pas dans la sagesse de Dieu, peut être repoussant, peut être ridicule, peut éloigner des gens. Dans cette période où tant de gens souffrent autour de nous, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Si j'étais à Nouvelle-Vie dans un contexte normal, je dirais quelqu'un dit « Amen ». Alors dites-le à la maison, dites-le là où vous êtes, parce que la sagesse que nous allons rechercher et que nous allons démontrer, la sagesse dans l'épreuve, la sagesse face à l'inconnu qui nous fait peur, n'est pas dans la crainte, n'est pas dans l'angoisse, n'est pas dans l'anxiété ou la panique. La sagesse que Dieu donne, elle est dans la confiance, dans l'assurance, sa parole, ses promesses, sa présence, sa paix. La sagesse n'est pas dans la condamnation non plus. Elle n'est pas dans la condamnation ou le cliché chrétien. Elle est dans la compassion, dans la connaissance. La sagesse est dans comment est-ce que je peux contribuer à apporter calme, à calmer les peurs des gens et leur donner l'assurance pour le futur. La sagesse n'est pas dans le blâme ou les accusations, mais comment la sagesse d'un croyant dans l'épreuve, comment est-ce que moi, je peux bénir? Comment est-ce que nous pouvons aider? Elle n'est pas dans le moi égoïste. La sagesse n'est pas dans juste ma protection, il faut que je me protège. Et la sagesse est dans le mon prochain. Comment est-ce que j'ai certaines libertés personnelles que je vais relâcher afin pour le bien commun? La sagesse n'est pas dans un déni mystique, pseudo-spirituel. La sagesse, c'est des décisions, des mesures, des paroles, une sensibilité à ceux qui souffrent. J'appelle tous les croyants qui vont voir ce message. Vous pouvez avoir cette force en Dieu, cette paix en Dieu, mais éloignez-vous de ces clichés sirupeux où on semble insensible à la véritable souffrance que les gens vivent autour de nous. La sagesse face à l'inconnu est ce qui nous fait peur. La sagesse n'est pas une église, ce n'est pas une église qui est ignorante et isolée. C'est une église chrétienne inspirée, inspirante, qui incarne toutes les intentions de Dieu pour chaque être humain à travers l'épreuve. Ce n'est surtout pas une église qui est en retrait. Ce n'est pas une église en retrait, c'est une église, en fait, qui va rappeler certaines choses. Parce que Jacques, il y a 2000 ans, dans l'épreuve, à travers leur épreuve à eux, les a amenés à cette recherche de la sagesse, mais aussi au rappel de la sagesse. Il y a 2000 ans, l'apôtre Jacques va dire, dans ces moments d'épreuve, il y a des choses qu'il faut que vous vous rappeliez. On va lire un texte hallucinant parce qu'il est très, 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 très d'actualité, mais écrit à 2000 ans, Jacques 4, versets 13 à 15. Le rappel de la sagesse, voici ce que tu dois te rappeler dans des temps comme ce que nous vivons en ce moment. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui, ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite qui disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous, alors, dans la volonté de Dieu, dans les intentions de Dieu, alors nous ferons ceci ou cela. C'est pas assez saisissant qu'il y a 2000 ans, les gens disaient, voici, se pensaient en contrôle de leur aujourd'hui, de leur demain, se pensaient en contrôle de leur voyage, en contrôle de leur investissement, en contrôle de leur économie, de leurs achats. On va faire ça. Josephus Flavius était un historien de l'époque, pas chrétien, mais juif de l'époque, et dans un commentaire sur les marchands, parce qu'il parle aux marchands dans ce texte, sur les commerçants de l'époque, Flavius, à l'époque, dit, c'est une particularité Haïti, c'était une marque de l'époque que les marchands allaient de ville en ville, étaient très, très axés sur les déplacements. Josephus n'avait aucune idée ce que se déplacer voulait dire 2000 ans plus tard. Et 2000 ans plus tard, nous nous retrouvons, alors que là, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, tout le monde disait mes voyages, mes choses, où je vais aller, ce que je vais faire, mes investissements, mes affaires. Et il y a quelque chose qui est tellement précieux à se rappeler et à rappeler. La sagesse dans l'épreuve se rappelle. Il y a une expression ici que c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament qu'on trouve. Jean qui a dit « Écoutez-moi bien, vous qui dites ». Parce qu'il y avait des gens qui disaient carrément ça. Moi, je suis en contrôle de ma vie, je maîtrise mes affaires, mon voyage, mes trucs. Et en ce moment, il y a des millions de personnes qui réalisent que tu tiens pas grand-chose. Tu ne mesures pas toi-même. En termes du texte qu'on vient de lire, vous ne savez pas ce qui arrivera demain, mais Dieu le sait. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, mais Dieu le sait. Dieu est omniscient. Dieu est avant et après. Dieu à chaque page du livre de ta vie. La sagesse du croyant, c'est cette humilité. Je ne sais pas ce qui va arriver demain, mais je sais en qui j'ai cru. Je sais que lui... Le texte dit, vous ne savez même pas ce que votre vie va être, mais Dieu sait ce que ta vie va être. Dieu sait tout ce que ta vie va être. Dieu sait tout ce que tu vas vivre. Dieu a dit, je connais les plans, les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur afin de donner un avenir et de l'espérance. Le texte dit, vous êtes une vapeur qui disparaît. Ta vie, quel que soit le nombre d'années que tu vas vivre, le nombre de décennies, est une vapeur. Mais Dieu, lui, est éternel. Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Il ne change pas. La sagesse modelée par Jésus, dans la prière même qui nous a appris à prier, non pas ma volonté, mais la tienne, modelée par Pierre, modelée par Paul, modelée par Jacques ici, le frère de Jésus, c'est que dans quel que soit ce que je traverse, je dois ouvrir ma vie, je dois remettre ma vie, ouvrir ma vie, mes circonstances, mes projets, mes possessions, mes plans, mes présomptions pour l'avenir à la lumière du rappel de sa volonté, de ses plans, du rappel de sa bonté, de ses actions, du rappel de la fidélité de Dieu. Il dira dans le chapitre 5 sur le rappel de la sagesse. Rappelez-vous de ceci. Rappelez-vous que vous ne maîtrisez, vous ne savez même pas ce qui va arriver demain, mais que vos demains sont entre ses mains. Et il dira au chapitre 5, versets 10 et 11, la prochaine diapo, il dira, « Prenez mes frères pour modèle de résilience à travers leurs souffrances, ces hommes, ces femmes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Il parle des prophètes qui les ont précédés. « Voici, nous les considérons comme bénis, heureux et comblés, car nous avons vu la fin. » Le dénouement que le Seigneur leur accorda, car notre Seigneur est plein de miséricorde ou d'amour, de pardon, de bonté et de compassion. Il dit littéralement que dans l'épreuve, il y a un rappel à la sagesse. Rappelle-toi des témoignages transcendants du passé. Rappelle-toi le fruit de la foi. Arrêtez-vous aujourd'hui et rappelez-vous le nombre de pandémies que vous avez traversé, que l'on a traversé comme personne, comme famille, comme nation, et comment Dieu a été fidèle, comment Dieu, le fruit de la foi de ceux qui portent son nom. Rappelle-toi comment il a transformé les pires tempêtes en triomphe, les pires situations en trésors précieux. Il dit, regarde, rappelle-toi la fin, le dénouement. Rappelle-toi comment tout ça, c'est comment Dieu a tourné, comment toutes choses concourent au bien. Comment aucune arme formée contre vous prospérera. Comment Dieu change ce qui avait été pour le si intensément mal à nos yeux que dans la sagesse de Dieu, il est capable de le tourner pour quelque chose qui est un trésor. Rappelle-toi et ne laisse personne te tromper sur la fidélité de Dieu, sur la nature de qui est ton Dieu. C'est pour ça qu'il dira dans Jacques 1, les versets 16 à 18, « Ne vous y trompez pas, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. » Et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers fruits de sa nouvelle création. Ne laisse pas les événements présents, ne laisse pas, c'est la version que la religion a donnée, ne laisse pas peut-être certaines voix évangéliques, et ne laisse pas même l'ennemi de ton âme, le menteur, murmurer à ton esprit quoi que ce soit d'autre. Essayez de défigurer qui est ton Dieu. Il est le Dieu, le Père de lumière fidèle. Il a toujours des dons. Il y a toujours sa bonté. Seulement de bonnes choses viennent du Père qui est dans les cieux. Et il n'y a en lui aucune ombre de variation. Il a été fidèle, il sera fidèle. Il a permis à son peuple de traverser toutes les pandémies. Il permettra maintenant. Il a permis à son peuple de briller au milieu des pires pandémies. Et il le fera encore maintenant. C'est même pour cela qu'il nous a engendrés. Il nous a créés pour des heures comme celle-ci. Il a créé, il a fait de nous les premiers fruits de sa création, afin de créer un peuple sur cette terre qui marcherait avec un Dieu, qui sont animés d'une confiance différente, d'une paix différente, d'une perspective différente, de forces différentes, pour littéralement devenir les épîtres vivants, lus par tous les hommes, les premiers fruits de la création que Dieu désire, la nouvelle créature que Dieu désire faire dans chaque être humain. La sagesse, c'est le rappel de la nature du Père. Moi, je suis en contrôle de rien, pas de demain, je suis juste une vapeur. Mais lui, il est fidèle, il porte toutes choses. Et c'est aussi la sagesse, c'est une réalisation de l'appel. Il y a un certain refus à notre appel. À travers chaque jour de l'année, chaque saison, chaque année, mais particulièrement face à l'inconnu qui nous fait peur, il y a la recherche de la sagesse, le rappel de la sagesse, il y a un refus à la sagesse. Dans Jacques chapitre 1, verset 27, et au chapitre 2, l'apôtre Jacques dit à des gens qui traversent une pandémie terrible, vous êtes appelés à me représenter. Vous êtes appelés, en chapitre 2, il dira, Dieu dit, vous portez son beau nom, vous êtes des amis de Dieu, vous portez son nom glorieux et vous devez absolument refuser la foi sans les œuvres. Au milieu des épreuves, refuser la foi sans les œuvres. Il dira, un premier verset, verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Le mot « religion » ou « religieux » ici n'est pas dans le sens péjoratif à lequel on attribue souvent, ou négatif, ou du rituel religieux stérile, sans vie, superficiel, en apparence, dans des rites, sans réalité ou authenticité morale ou spirituelle, sans relation avec Dieu. Le mot qui est grec ici, « trasekia »,« trasekos », c'est un mot puissant. Ça décrit littéralement, ça définit une personne ou un mouvement spirituel qui suit avec sincérité et intégrité en action, en valeur, en engagement, en motif profond, ce qu'il croit et préconise. C'est quelqu'un qui est... La religion pure, c'est cette relation où ce que tu dis, tu le fais. Où ce que tu prétends, tu le vis littéralement. Et Jacques dit, la foi pure, la sagesse pure dans l'épreuve et sans tâche, n'est pas seulement de se préserver des souillures. Et il parle ici des souillures morales, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement se préserver des souillures morales. L'image de l'Église chrétienne qui, plus le monde va mal, plus se recroqueville sur elle-même à travers une espèce de voile où est-ce qu'on essaie de se garder de la souillure extérieure est incomplet. Et ce n'est pas seulement de se préserver des souillures, c'est aussi, et là il donne un exemple, il va continuer tout de suite après, la visite de la veuve, de l'orphelin. Se préoccuper de ceux qui sont visités, la veuve et l'orphelin, seulement un exemple, parce qu'il continue tout de suite après au chapitre 2, versets 14 à 17. Dans l'épreuve, alors mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour et que l'un d'entre vous dise, allez en paix, chauffez-vous et vous serez rassasiés. Vas-y, tu vas être correct. Est-ce que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps? À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et laissez-moi vous partager quelque chose qui est une clé absolument essentielle. Quel que soit ce qu'une société traverse, l'Église chrétienne est à la sagesse de Dieu pour l'Église chrétienne, c'est d'être une main tendue. C'est pas seulement de se préserver des souillures du monde, de se protéger du virus, mais c'est d'être une main tendue. C'est de refuser farouchement la foi sans les œuvres. Et si vous saisissez ça, et c'est un des pierres angulaires de l'Église Nouvelle Vie depuis ses tout débuts, depuis nos débuts, il y a 27 ans, nous avons compris, nous avons saisi qu'à tous les jours de l'année, on le fait depuis des années, à chaque mois, maintenant 8 à 10 000 personnes reçoivent de l'aide ici à Nouvelle Vie à travers Banque alimentaire et une multitude de projets et d'initiatives. Mais c'est quelque chose que lorsqu'il y a un secouement comme nous vivons actuellement, c'est une opportunité pour le peuple de Dieu de représenter, d'incarner un Dieu. Nous devons refuser cette foi sans les œuvres. Quelle horreur dans un moment de souffrance. Est-ce que vous comprenez? En ce moment, il va y avoir dans les prochains mois des milliers de personnes qui vont perdre leur emploi. Cette semaine, on a eu plusieurs rencontres à la Banque alimentaire. Déjà, il y a tellement de gens qui n'étaient pas sur un besoin de Banque alimentaire il y a un mois ou deux mois, qui sont maintenant, il y a des milliers de personnes qui sont sans revenus, milliers de personnes qui vont être mises à pied. Il y a des industries entières, que ce soit du sport, que ce soit du spectacle, dans toutes sortes de domaines. Il y a des industries entières, des gens en ce moment qui vont arriver. Il y a des milliers de familles et des milliers de personnes du bel âge qui vont être particulièrement dans le besoin, particulièrement vulnérables, particulièrement dans la souffrance. Quelle horreur d'être une église. Quelle horreur d'être une église qui serait, comme Jacques l'a dit, qui dit, allez, on prêche des sermons, va en paix et on se revoit la semaine prochaine. Mais quel honneur! Et quel honneur de représenter le Seigneur Jésus-Christ, d'étendre les mains et d'aimer et d'être là. Nous avons appelé la mairesse de notre ville, nous avons contacté les ministres du cabinet du gouvernement qui sont dans notre comté cette semaine pour offrir nos ressources, offrir nos mains, offrir nos bâtiments, offrir tout ce que nous avons. Je me souviens toujours, lorsque nous avons vécu la crise du verglas, lorsque la crise du verglas au Québec du 4 au 10 janvier 1998. Nous étions l'équipe de Nouvelle Vie le 4 janvier. Nous étions dans un endroit retiré pour une saison de jeûne et de prière. Et je me souviens toujours, parce qu'elle est encore ici aujourd'hui, que nous étions ensemble, et une des femmes qui était l'une des leaders de l'Église qui était là avait prié et avait dit, « Seigneur, l'Église avait 5 ans à ce moment-là, nous sommes une Église dans la ville, mais Seigneur, on te demande de faire entrer la ville dans l'Église. » Et lorsqu'elle avait prié ça, on n'avait aucune idée comment ça pourrait prendre place. Mais alors qu'elle était dans les 30 minutes, ou l'heure, pendant qu'elle était en train de prier ça, puis qu'on priait pour être les mains de Dieu dans la ville, que Dieu manifeste son amour à travers nous, nos portables se sont mis à résonner. C'était la crise du verglas qui commençait, les pannes d'électricité partout, l'église, la ville de Longueuil et la ville de Montréal dans le noir. À ce moment-là, sur une période, pour ceux qui ne connaissent pas ces événements-là à l'international, qui regardent ce message, la province a été plongée en plein hiver dans la noirceur. Et nous avions fait, à ce moment-là, l'acquisition, le bâtiment où l'église avait lieu était un ancien centre commercial où on avait une génératrice. Nous étions le seul bâtiment qui avait de la lumière, qui avait du pouvoir, qui avait de la puissance, du pouvoir. Et nous sommes devenus un centre d'hébergement, des centaines de personnes. La ville est entrée dans l'Église. Et à ce moment-là, il y a toute une série d'événements miraculeux qui ont pris place. Je me souviens de comment il y a un avant pour nous et un après la crise du verglas. Il y a des entreprises qui ont commencé à donner des tonnes de nourriture qu'on n'avait jamais vues auparavant. Je parlais avec la directrice d'Action Nouvelle Vie récemment, et ce n'est même pas mesurable, c'est dans les dizaines de millions de dollars la valeur des entreprises qui ont donné à Action Nouvelle Vie à partir de la crise du verglas. Puis il y a toutes sortes de choses. Et je ne compare pas la crise du verglas avec ce que nous vivons actuellement, parce que ce que nous vivons actuellement est infiniment plus grave. C'est mondial, c'est à un niveau qui est... Mais je crois que c'est un moment, une opportunité où nous allons refuser. La sagesse en ce moment, là, c'est de refuser une foi sans les œuvres, de refuser de nous préserver le plus possible de la souillure, quelle qu'elle soit, morale, mais aussi de tous les côtés. Non, nous allons être ceux qui vont être ses bras, ses mains, son amour en action. Et je vous annonce, je vous prophétise à l'avance que la mesure de l'impact et de la bénédiction que Dieu va nous donner, alors avec ce que nous avons, nous sommes l'incarnation de son cœur envers ceux qui souffrent, sera sans limite. La sagesse face à l'inconnu qui nous fait peur, il y a une recherche, un refus, un refus et un rappel. Et je termine avec ceci, il y a un rapprochement à cette sagesse. Lorsqu'on fait face à l'inconnu, il y a l'apôtre Jacques le dira de cette façon, chapitre 4 et le verset 8, c'est le dernier verset de ce message. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. C'est presque le verset clé pour le coronavirus. Nettoyez vos mains, purelles. Nettoyez vos mains, mais plus que ça, purifiez vos cœurs, hommes et femmes irrésolus. Venez simplement avec humilité devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a beaucoup de belles choses qui ont pris place lors de la crise du verglas, mais une des choses qui a pris place lorsque toutes sortes de gens vivaient toutes sortes d'insécurités et que l'amour de Dieu était offert, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, la paix que Dieu offre a été offerte à travers des gens ordinaires, des gens comme vous et moi. il y a eu des centaines, si ce n'est des milliers de personnes qui se sont approchées de Dieu. Et dans les dernières minutes de ce message, je veux vous inviter, je veux t'inviter, là où tu es. Tu le regardes à la maison, tu le regardes sur ta tablette, quel que soit ton âge, où que tu sois dans la province du Québec, où que tu sois dans les nations, dans le monde, et surtout où que tu sois dans ta marche avec Dieu, dans ton chemin, ton cheminement avec Dieu, je veux t'inviter à t'approcher de lui. Approchez-vous de lui, homme irrésolu. Approchez-vous de lui. Et bien au-delà de nettoyer vos mains, nettoyez vos cœurs. Venez, venez, laissez l'amour, le pardon de Dieu. Venez nettoyer vos cœurs. Il dit, approchez-vous de lui, ô pécheur. Lorsque vous lisez le mot péché ou le mot pécheur dans le Nouveau Testament, il y a 5 mots grecs qui le décrit et chacun d'entre eux s'applique à nous. Approchez-vous de lui. Je vous donne une définition très simple de chaque nuance du mot pécheur. Il y a quelqu'un qui dira en 2020, les pécheurs, le péché. Non, approchez-vous de lui, pécheur, approchez-vous de lui, vous qui avez manqué la cible. Approchez-vous de lui, vous qui avez dépassé une ligne. Approchez-vous de lui, vous qui avez été sous une culpabilité. Je suis coupable, j'ai manqué, je me suis déçu d'autres. Approchez-vous de lui, vous qui êtes tombé profondément. Il y a un des mots pour le péché, c'est que j'ai traversé une ligne et je suis tombé. Et aujourd'hui, ce qui est hallucinant, c'est que tout ce qui prend place autour peut être le moment où tu vas ouvrir ton cœur à Dieu, où tu vas t'approcher de lui, tout simplement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, pas besoin de toutes les réponses. Vous allez avoir le droit de continuer à poser vos questions, à réfléchir. Vous avez des doutes, vous avez des questions. Mais il y a un moment où tu peux choisir de t'approcher de lui, de reconnaître, je suis un pécheur, j'ai besoin de ton pardon. Et il y a dans cette approche de ton cœur vers Dieu, je m'adresse à des gens qui n'ont jamais, ou peut-être qui ont été, c'est intéressant parce qu'il dit « homme irrésolu ». Peut-être que tu as été de ceux qui se sont approchés et tu as reculé. Lorsque ça va mal, tu cries à Dieu, puis après ça, tu t'éloignes. C'est un moment pour toi de prendre une vraie décision, de vraiment t'abandonner à Dieu. C'est un moment pour toi qui s'est éloigné de revenir, parce que peut-être que tu es affecté en ce moment par le virus. Et peut-être qu'il y a quelqu'un près de toi qui est affecté par ce virus physique. Mais il y a toutes sortes d'autres poisons de l'âme, de l'amertume, de la souffrance, du passé, des échecs. Il y a toutes sortes d'autres poisons qui viennent ronger ton âme, que tu as besoin de lui remettre. Et j'aimerais dire que le pardon que tu vas recevoir, la paix que tu vas recevoir, la capacité, les possibilités d'une vie libre, d'un pardon, d'une grâce, d'un salut en Jésus-Christ. Pas dans une église, pas à travers l'église Nouvelle Vie, pas à travers un mouvement religieux ou un autre. Le salut, il est en Jésus-Christ. Le pardon, il est en Jésus-Christ. La vie nouvelle, elle est en Jésus-Christ. Mais si tu t'approches de lui, les mots sont tellement beaux. Juste viens simplement avec humilité là où tu es et tu vas. Et lui, viens avec humilité devant lui et lui, il va t'élever et il t'élèvera. Et tu n'as pas idée où Dieu peut t'élever. Tu n'as pas idée la vie qu'il peut te donner. Tu n'as pas idée tout ce qu'il peut t'élever au-dessus de tes échecs, t'élever au-dessus de tes peines, t'élever au-dessus de tes pires souffrances, les pires choses qui te tiennent. Oh non! Il n'y a pas de limite à comment Dieu peut élever quelqu'un qui vient à lui avec humilité, qui revient à lui, qui s'approche de lui et il va s'approcher de toi. Alors, dans la dernière minute de ce message, juste avant que l'équipe de worship vienne chanter un chant magnifique, « Mon secours est en toi », je veux prier pour toi. Je veux prier pour vous, là où vous êtes. Et je vous invite à prier cette prière avec moi. Seigneur, je prie pour chaque personne au son de ma voix qui va voir ou entendre cette vidéo aujourd'hui et quel que soit le moment dans le temps, ce message était un rendez-vous divin pour lui ou pour elle. Et je prie qu'à travers, Seigneur, ces moments, à travers ce message, que la premier pas, le fondement de toute sagesse est de venir à toi et de revenir à toi, de nous abandonner à toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, que des milliers puissent aujourd'hui s'approcher de toi. Et alors qu'ils s'approchent de toi, toujours tu le fais. Tu t'approcheras d'eux. Et lorsque tu t'approches,
tu nettoies les cœurs. Lorsque tu t'approches, tu apaises. Lorsque tu t'approches, tu libères. Lorsque tu t'approches, tu changes les choses. Lorsque tu t'approches d'un être humain, tu guéris son cœur et son âme. Et tu lui offres un futur qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors aujourd'hui, Seigneur, que des milliers puissent s'approcher de toi avec humilité. Et toi, tu les élèveras. Nous le croyons, nous le recevons, nous le célébrons dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière aujourd'hui, si tu as fait un pas pour t'approcher de Dieu, je voudrais vraiment que vous puissiez nous écrire. Envoie-nous un courriel tout de suite. Envoie-nous un texte, envoie-nous un message, envoie-nous un courriel tout de suite à chez-nous@commercial-nouvelle-vie.com. chez-nous@commercial-nouvelle-vie.com. Il y a quelqu'un cette semaine. T'écris aujourd'hui, on va te répondre. Il y a quelqu'un qui va être là pour t'accompagner, quelqu'un qui va être là pour te répondre. Et ce qui est une pandémie, ce qui est peur, ce qui est inquiétude, ce qui est peut devenir pour toi le commencement d'une vie nouvelle dans la sagesse de Dieu où tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Tu viens à lui avec humilité et il t'élève dans la vie nouvelle qu'il a préparée pour toi. Pendant que nous arrivons dans ces derniers moments de cette célébration ensemble, j'invite l'équipe de worship qui vont chanter ce chant magnifique, « Mon secours est en toi ».